proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Benny Mer, venu de Tel Aviv, pour nous parler de son livre « Smotché, biographie d'une rue juive de Varsovie » avec son éditeur Gilles Rosier de l'Antilope. Bonsoir Benny et Gilles.
Bonsoir.
Bonsoir Sandrine.
Longtemps journaliste littéraire au quotidien Haaretz, fin connaisseur de la culture et de la langue yiddish, traducteur de monuments de la littérature yiddish comme Sholem Aleichem ou Avron Sutzkever, éditeur, vous êtes, Benny Mer, aujourd'hui devenu historien. Votre livre, Smotché, biographie d'une rue juive de Varsovie, qui nous vaut votre présence à nos côtés aujourd'hui, aurait très bien pu recevoir une mention très honorable lors d'une soutenance de thèse de doctorat en histoire contemporaine. Comment l'idée de consacrer une recherche à une rue de Varsovie s'est-elle imposée à vous? Eh bien, votre motivation, vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage au début, page 14, je vous lis. Alors, pourquoi m'intéresser à Smotché? Dans les pérégrinations qui m'ont mené à cette rue, presque toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont posé la question. On peut les comprendre, même si je n'ai pas toujours eu la patience de le leur expliquer. Surtout que mon attirance pour cette rue m'est venue de bien ailleurs. Pourquoi m'intéresser au yiddish? Me demande-t-on en permanence. Les deux questions appellent peut-être la même réponse, car d'une certaine manière, la rue Smotché est pour la topographie ce que le yiddish est pour les langues. Smotché n'était pas la rue la plus importante, ni bien sûr la plus belle de Varsovie, et pourtant, entre les deux guerres, elle constituait un véritable microcosme, en particulier de vie juive. Alors, à vous lire, évoquer cette rue juive de Varsovie avec ses juifs, ses goïms, ses pauvres, ses communistes, ses riches, ses honnêtes gens, ses professionnels en tout genre, ses juifs orthodoxes, ses sionistes, ses bundistes, on voit défiler devant nos yeux la vie juive d'Europe centrale avant la catastrophe de la Shoah. C'est une sorte de mémorbourg, un livre de mémoire, alors, où les héros ne sont pas des hommes et des femmes, mais une rue. Il y a eu vos recherches et il y a eu leur aboutissement avec l'écriture de ce livre. Avec vous, on remonte hein, tous les numéros de la rue Smotché et c'est tout un monde que l'on découvre. Et la première question qu'on a envie de vous poser est la suivante. Pourquoi cette rue vous a-t-elle autant touché?
Alors, le nom de Smotché était connu. Chacun qui lit la littérature, qui connaît un peu la littérature yiddish, connaît le nom Smotché comme il connaît l'autre nom de rue de Varsovie, comme Nalewki, Zamenhof, Niska, Novolipie et tout le reste. Et le nom de Smotché était gravé dans ma mémoire et à cause de la chanson de Chava Alberstein, la chanteuse israélienne, qui a composé le poème de Binyam Heller, un poète yiddish excellent, et qui est né dans la rue Smotché et qui a écrit et réécrit des poèmes sur cette rue Smotché. Et puis, dans un de derniers poèmes qu'il a écrit sur cette rue, il mentionne sa sœur Chaye, et Mein Schwester Chaye, qui a élevé les enfants, élevé au lieu de la mère, et parce que la mère était occupée dans la marchandise. Et puis, cette sœur Chaye qui a élevé les enfants, et finalement, il se souvient de Chayele en disant qu'un Allemand lui avait brûlé à Treblinka. Et lui, dans l'État juif, il est le seul à se souvenir de cette sœur Chayele. Et je pense que c'était comme refuser à ce destin de Chayele et de tous les Chayeler qui ont habité la rue Smotché, et tous les voisins, toute la famille de Binyam Heller. Et c'est pour refuser et pour revivre, pour laisser revivre, et entre guillemets, ou peut-être pas, et ces habitants qui est mal connu d'habitude. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs années, je suis marché à Varsovie, la nouvelle Varsovie, enfin, elle n'est pas si nouvelle, elle est reconstruite il y a 60 ans déjà, mais je passais par la rue Smotché, je me suis rappeler de cette chanson et de cette chanson de Chava Alberstein, cette chanson magnifique. Et J'ai acheté quelque chose dans l'épicerie en disant qu'il doit rendre hommage à cette rue. Il faut faire quelque chose avec ça. Et d'abord, je pensais de créer une exposition de la rue Smoche. Mais là, j'ai découvert qu'il y a très peu d'objets qui peuvent reconstruire la mémoire de la rue Smoche. Et le royaume de la rue Smoche, aujourd'hui, actuellement, c'est le royaume de la littérature et de la presse.
Alors, on va en parler plus longuement. La presse que vous avez épluchée en yiddish, notamment, où vous entend très bien parler le français. Votre livre, vous l'avez écrit en hébreu. C'est Gilles Rosier, l'éditeur, qui l'a traduit en français. Comment vous avez pris le français, déjà?
Alors, la langue était connue. Ma mère est née en Belgique.
Et
souvent, elle a parlé le français à la maison, mais il fallait l'apprendre, bien sûr, comme il fallait apprendre le yiddish.
Alors, combien de langues vous parlez? Vous lisez?
Alors, surtout l'hébreu.
Oui.
Et français, anglais, yiddish, un peu de polonais. Oui.
Alors, pour l'écriture de ce livre et ses recherches, c'est surtout le yiddish hein, qui vous a aidé. Vous avez dépouillé la presse, on l'a dit. Vous qui êtes journaliste, quelle impression fait sur vous cette façon de mettre en avant les petits drames du quotidien par les journalistes de la presse yiddish concernant la rue? Parce qu'on voit des choses incroyables qui sont recensées dans la presse.
Oui, alors ça, c'est la presse est la source et la source la plus importante que j'ai utilisée en écrivant le livre. Et il y a des centaines des articles sur la rue Smoche. Et puis, ça a aidé beaucoup à reconstruire l'image de la rue. Mais il faut bien se souvenir que plusieurs de ces articles sont de faits divers, les sensations qui sont liées à cette rue. Et il faut bien comprendre ces faits, et il faut s'aider aussi de l'autre côté avec de la littérature yiddish, de la littérature en hébreu, en polonais, etc.
Pourquoi on en parle autant dans la littérature, dans la presse de cette rue? Est-ce que c'était finalement la plus importante parce que justement elle était le microcosme de la vie juive avant la Shoah en Pologne?
Alors non, elle n'était pas la rue la plus importante de Varsovie. De plusieurs points de vue, la rue Nalev qui était la rue principale de cette communauté. Mais je pense qu'à la fois Smoche est typique et unique. Ça veut dire qu'elle ressemble beaucoup à d'autres rues de Varsovie, comme je mentionnais déjà, comme Zamenhof, Niska, Novolipk et toutes les rues du contré. Mais et à la fois, elle était typique. Par exemple, si on se rappelle de la rue Krochmalna, et la rue où Bashevis Singer est né, alors la rue Krochmalna, tout près de la rue Smoche, était considérée comme et la rue de communistes, de chassidim de l'autre côté. Mais la rue Smoche était plutôt une rue bundiste, juif, laïque, socialiste, plus prolétaire et tout, et plus... Oui, c'est ça.
Et pourtant, il y avait un grand nombre de synagogues aussi. Alors certaines, c'est amusant, hein, qui faisaient les offices très tardivement le matin pour permettre aux gens de vaquer à leurs occupations avant ou de faire la grasse matinée.
Oui, alors c'est le hasard que je trouvais cette synagogue et puis un pharmacien qui priait le Shabbat dans cette synagogue. Et puis dans un article, il était mentionné comme celui qui en a et levé la nuit de Shabbat. Et voilà, alors il y a de coïncidences comme ça qui m'est arrivée, mais c'est assez rare. Mais pourtant, il faut bien se rappeler que la rue Smoche a eu... un théâtre, un grand théâtre de 1000 sièges, un théâtre principal de la communauté de la ville de Varsovie, en yiddish, et seulement en yiddish. Et le théâtre a joué le vendredi et le shabbat, et il était toujours plein, il était très très bon marché de quelques manières.
On a la chance d'avoir l'éditeur et le traducteur de cet ouvrage avec nous, Gilles Rosier. Quand on a d'abord ce livre entre les mains, on ne sait pas trop ce que c'est, comment le qualifier. Est-ce que c'est un roman historique? Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est une étude? Est-ce que c'est autre chose? Alors on voit écrit dans la manchette cette phrase que je vais lire, c'est que les éditions de l'Antilope publient des textes littéraires rendant compte de la richesse et des paradoxes de l'existence juive sur les 5 continents. Quand vous avez reçu le manuscrit, qu'est-ce que vous avez pensé ?
Alors, en fait, ça rentre dans une catégorie qui a un nom aux États-Unis et du coup, traduit en français. Ça s'appelle de la narrative non-fiction, de la non-fiction narrative.
D'accord.
Donc, ce n'est pas vraiment de la fiction, puisque Benny Mer se part de témoignages, d'annonces, de coupures de presse. Mais il le traite un petit peu comme un roman, justement.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est pris par la lecture comme on est pris dans la lecture d'un roman. Ça aurait pu faire l'objet d'une thèse d'histoire, mais en tout cas, le texte n'est pas universitaire.
D'accord. En français, on dit roman historique, non ? Ou c'est pas exactement ça ?
Non, roman historique, c'est vraiment des... Alors, ça peut être inspiré de personnages existants,
oui.
Mais là, en fait, en plus, Benny Mer, il fait office de guide touristique de cette visite virtuelle, parce que la visite ne peut pas être réelle, puisque la rue n'existe plus comme telle, mais il nous emporte dans une visite touristique et il dit « suivez le guide », puisqu'il commence au numéro 1 et il finit au numéro 62 de la rue.
Alors, on remonte la rue avec vous. J'ai une autre question pour vous, Gilles Rosier. Alors, avec Anne-Sophie Dreyfus, on le sait, vous êtes directeur de cette maison d'édition. Vous avez traduit ce livre et vraiment, bravo, chapeau. On oublie souvent le travail de la traduction.
Merci.
Au niveau des poèmes aussi, parfois les rimes sont respectées. J'aimerais juste lire un poème de la page 101 de Y.L. Cohn. Alors, ce poème s'appelle « Ma maison ». Ma maison est reléguée aux marches de la ville où serpentent des ruelles vides et nues. Là, les jours pendouillent somnolents fourbus. Les nuits s'étirent, elles gémissent fébriles. Dans la nuit silencieuse, tout s'endort et rêve d'une vie heureuse. L'éclat verdâtre des lanternes seul ressort. Les vitres scrutent, opaques, ténébreuses. Comment on fait pour traduire aussi bien ces poèmes ? Alors d'abord, ils étaient dans le livre écrit en yiddish ou en hébreu originellement ?
Alors en fait, sur la couverture, il est écrit traduit de l'hébreu par Gilles Rosier.
Oui.
Mais tout ce qui était en yiddish, je l'ai traduit aussi directement du yiddish.
Voilà,
je n'ai pas fait une double traduction, puisque Benny Mer avait traduit du yiddish en hébreu. Bien entendu, comme je suis traducteur du yiddish, je suis reparti du yiddish. Bon, je dois vous avouer que... La traduction des poèmes, ça a été ce qui m'a pris le plus de temps, le plus difficile. J'avais fait une première version et Anne-Sophie Dreyfus m'a dit « faut que tu travailles encore, parce que ce serait quand même bien. » Non pas parce que là, j'ai pas respecté non plus la scansion avec le nombre de pieds, etc. Mais j'ai quand même essayé de trouver des assonances et des rimes. Voilà.
Chant d'habit aussi, retrouver ce terme.
Alors, chant d'habit, j'avais mis un post sur Facebook, je sais pas si vous l'aviez lu à l'époque, pour dire comment est-ce qu'on disait. Parce que moi, j'ai pas habité Paris quand j'étais petit, j'habitais à la campagne. Donc, il n'y avait pas le type qui passait dans la rue pour demander des vieux habits. Et donc, il y a des gens qui m'ont répondu, à Paris, on disait « champ d'habits ». Et ce qui se dit en yiddish, « altezachen » Non, « altezachen », c'est en hébreu.
Oui, mais l'appel, c'est « handel, handel ».
Voilà, « handel, handel ».
Ce qui est expliqué dans le livre.
Mais c'est assez rigolo, parce que d'ailleurs, Benny Mer le disait dans son texte, j'ai un peu modifié, parce qu'il disait « c'est comme « altezachen » dans les rues de Tel Aviv ». Et « altezachen », c'est un mot yiddish. C'est-à-dire que les Arabes chiffonniers à Tel Aviv, ils disent « altezachen », vieille chose.
Et vous dites, et à Paris, on disait champ d'habits.
Oui, alors il y a un certain nombre de choses que j'ai transposées, parce que c'est vrai que ça ne disait rien au lecteur français quand Benny racontait qu'à Tel Aviv, on dit Altezachen, donc du coup, j'ai transformé en champ d'habits.
En tout cas, c'est remarquable, bravo. Aussi bien la recherche, l'écriture et cette traduction, ça doit vous amuser un petit peu, non ? Ou c'est vraiment, c'était compliqué ?
Ça m'a demandé du travail, évidemment, de rimer les poèmes, mais pour moi, ça a été un plaisir immense de traduire ce livre, d'abord parce que j'ai beaucoup d'affinités intellectuelles avec Benny Mer, qui est aussi un ami, et aussi parce que traduire un livre à la fois du yiddish et de l'hébreu, ça me comble, parce que c'est toute ma vie, le yiddish et l'hébreu.
Et puis c'est original par rapport aux autres ouvrages que vous publiez.
Alors effectivement, d'habitude, on publie plutôt de la fiction,
ouais.
C'est le deuxième livre de non-fiction qu'on
ouais.
publie, le premier ayant été... une étude sur la psychanalyse en Palestine et en Israël, et celui-ci donc sur une biographie d'une rue juive de Varsovie.
Alors on sent que vous avez été habité par cette rue, en général c'est l'inverse, on habite une rue. Vos recherches sont systématiques, vraiment comme un historien qui devient monomaniaque. Combien de temps elles ont duré vos recherches ?
Alors, j'aurais dit j'étais très rapide, mais un an, mais la recherche d'avant était beaucoup plus longue. Mais il faut dire que je pense que ces gens-là méritaient et un historien et pas un roman et de fiction ou de cela, parce que leur nom est déjà complètement oublié et personne ne parle de ces gens-là qui sont... Leur mémoire est négligée même. Donc, pour mentionner, rémentionner leur nom, alors là, il faut un travail d'un historien. Et c'est ça que j'ai tenté de le faire.
Alors, vous n'avez pas dit, mais finalement, votre histoire familiale, elle croise un petit peu cette rue hein, sans vraiment l'emprunter. Vous êtes un juif d'origine polonaise, hein, un juif polonais. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui, peut-être inconsciemment, hein, vous a motivé pour cet intérêt pour cette rue?
Oui, alors, mon père est né en Pologne, mais pas à Varsovie.
Il est né où?
Il est né à Pultusk, oui. Que c'est une petite ville au nord de Varsovie. Il est né en 32. Et puis, et c'est vrai que je pouvais m'imaginer, et au lieu de lui, immigrer à Varsovie, essayer de trouver ma place et entre ces autres, dans la rue Smocze ou quelque part ailleurs. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus... L'histoire est très connue et l'histoire est très proche. Oui.
Pour vous. Moi. Alors, vous brassez hein, tous les thèmes hein, du monde juif d'Europe centrale, l'orientation religieuse ou politique de ses habitants, les métiers, même la cuisine. On voit dans la liste des restaurants les menus et ce qu'ils mangeaient, les passions, les vices aussi. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'une fois que vous avez terminé le livre, vous vous êtes dit, tiens, il manque quelque chose dont je n'ai pas parlé?
Alors, peut-être les couleurs de la rue, parce que je connais. S'il y a des photos, alors ils sont, bien sûr, évidemment, ils sont noir-blancs. Et puis...
Il y a des photos hein, que vous mettez, quelques photos dont certaines sont extraites de vidéos, de documentaires.
Oui, oui. Alors, il me manque les couleurs, l'odeur de cette rue.
Il y a le marché où on sent, oui, on devine les bazars, un peu les odeurs sûr, aussi oui. Au bazar.
Il y a le marché qui était appelé les bazars, ouais. Comme pour distinguer les autres marchés de Varsovie, comme pour dire que ces marchés étaient juifs. Et puis, qui était un peu à l'extérieur de la ville.
Parce que chez les juifs, c'est forcément le bazar, finalement.
Oui, oui, oui. Alors, plus oriental, plus... oui, c'est différent. C'est quelque chose d'autre. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une fille de la rue, j'aurais dit comme ça, et une petite fille qui est née en 1930 et que je l'ai rencontrée et à Nazareth et il y a quelques ans. Et puis...
Alors, à la ville, hein, pas à la synagogue de Nazareth qui jouxte les studios de Radio Shalom.
Oui, la ville de Nazareth, même Nazareth Elite. Mm-hmm. Et là, elle m'a raconté tous ces petits détails qu'elle était persuadée qu'ils ne n'intéressent point. Et puis, elle m'a raconté tous ces détails d'odeur, des couleurs, de la rue, et ça m'a rendu heureux.
Alors, il y a des visuels, on le disait, hein, quelques-uns, dont du bazar. Est-ce que vous les avez tous mis ou est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez trouvés? Des photos d'archives de la rue Smocze?
Alors, c'est très intéressant parce que non, je trouvais pas des photos d'avant la guerre. Ils sont tous dans le livre. Mais la rue Smocze, comme elle était plus célèbre dans le temps de la Shoah, et alors là, on a plus photographié la rue, donc il y a pas mal de photos du temps de l'Holocauste. Mais je ne voulais pas les utiliser parce que je voulais raconter l'histoire de ces gens vivants et l'histoire vivante de cette rue. Je voulais éviter la catastrophe.
Gilles, c'est la première fois qu'il y a des photos dans des livres par aux éditions de l'Antilope?
Non, il y a dans le premier roman qu'on a publié de Rachel Chalita, il y avait oui. Certains chapitres qui commençaient par une photo.
Exactement, oui, oui.
Et puis dans un roman de Sabil Goussoub, le Beyrouth entre parenthèses, il y avait des photos aussi.
Est-ce que ça apporte quelque chose de plus quand il y a des visuels dans un ouvrage?
Bah écoutez, on essaye de suivre le désir de l'écrivain, en l'occurrence là oui. En fait, on n'a pas repris toutes les iconographies de l'édition hébraïque, notamment oui. Il y avait beaucoup d'annonces, notamment le menu dont vous parliez, oui. on le voyait. japonais, sauf que le lecteur israélien peut lire les caractères hébraïques du yiddish, même s'il ne connaît pas le yiddish, il est capable de lire chulent, par exemple, mais le lecteur français n'est pas capable de lire ça, donc on s'est dit que ça allait laisser de côté un certain nombre de gens. Donc on n'a pas repris beaucoup d'annonces qui n'auraient pas dit grand-chose au lecteur français. En revanche, on a repris les photographies. Il y a une photographie du tramway, il y a une photographie de gens dans la rue, du bazar, etc.
Du kiosque de presse, etc.
Absolument.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Benny Mer, qui nous parle de Smoche, biographie d'une rue juive de Varsovie, avec son éditeur et traducteur Gilles Rosier, des éditions de l'Antilope. Souvent, les historiens font des découvertes après la parution de leur étude. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que vous êtes encore habité par cette rue? Est-ce que vous découvrez encore des choses?
Oui, alors, et par exemple, il y a la, une archiviste de Yad Vashem qui m'a appelé pour voir spécialement un petit morceau de documentaire qui était pris au ghetto de Varsovie. Encore une fois, le ghetto de Varsovie qui était beaucoup plus photographié. Et là, on voit sans doute, sans aucun doute, on voit la rue Smoche en passant, mais c'était tellement déchirant de voir tous ces habitants de la rue Smoche, et encore plus de rescapés de l'autre partie de Varsovie, d'autres parties de Varsovie. Et c'était tellement déchirant que j'essaye de oublier ces images-là.
Alors, je peux vous dire une anecdote. Quand j'ai terminé la traduction, Benny m'a dit est-ce qu'on peut faire une postface pour les choses qu'il avait trouvées depuis que le livre avait été publié en hébreu. Et là, je lui ai dit, dans la mesure où je trouvais que le livre se tenait très bien, je comprends ta frustration parce que tu as trouvé d'autres choses, mais ça n'apportera pas forcément quelque chose de supplémentaire, juste quelques détails. Et donc, on l'a pas intégré, la postface.
D'accord. Et il est possible aussi que des juifs parisiens qui sont originaires de Pologne, en écoutant cette émission aujourd'hui, puissent vous dire, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père habitait cette rue et on veut vous contacter. C'est aussi possible.
Oui. Eh bien, ça peut se faire par les éditions de l'Antilope.
Voilà, mais ça se fera. Est-ce que vous êtes sur un autre projet? Est-ce que vous êtes resté historien ou
Alors, je préfère être un traducteur. Ouais. Oui, c'est vrai que je fais une traduction d'un autre livre, très joli livre, qui est Moïse Zonshine, et un écrivain de Varsovie pendant les années 30, qui a écrit après la guerre, et qui s'appelle Yiddish Varshev, la juif Varsovie. Et puis, c'est un ouvrage magnifique. Là, il raconte les petites histoires, là, il raconte les grands événements de cette rue et ruelle de Varsovie.
Pour vous, Gilles, à qui se destine ce livre? Est-ce que c'est le même public aussi large que les autres ouvrages parus aux éditions de l'Antilope? Un public plus spécialisé, des juifs originaires de Varsovie, des juifs d'Europe centrale, pour qui cette ville est comme un laboratoire de ce qui s'est passé avant la Shoah?
Quand on choisit de publier un livre à l'Antilope, c'est qu'on considère que ça peut concerner tout le monde. On est une maison d'édition pour tout public. Évidemment, il y a des publics qui sont un peu plus au cœur que d'autres. Il est évident que les Juifs originaires de Varsovie vont être directement se sentir directement concernés. Mais c'est vraiment, en fait, Benny Mer a aussi pris la rue Smoche comme un paradigme de la vie juive en Pologne. Donc c'est aussi un grand livre sur la vie juive en Pologne, au même titre que le livre de Rachel Hertel, Le Shtetl, la bourgade juive de Pologne, qui est paru il y a une quarantaine d'années et qui est devenu un classique. Je pense que Smoche, ça va devenir un classique aussi. Et moi, je le mets beaucoup en parallèle avec le documentaire et le livre de Ruth Zilberman qui est paru l'année dernière, Les enfants du 209 rue Saint-Maur, où Ruth Zilberman a fait la biographie d'un immeuble, et bien Benny Mer a fait la biographie d'une rue.
Voilà, et qui restera aussi, vraiment, j'insiste, comme une référence historique. On remonte la rue avec vous et on apprend beaucoup de choses. Cette rue n'est pas habitée que par des juifs, il y a des chrétiens aussi, et donc le message est universel.
Je l'espère, oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benny.
Oui, j'espère beaucoup aussi. Ouais.
Alors, il y a une question classique, néanmoins difficile dans cette émission. Si vous, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors, allez, laissez revivre comme moi. J'espère beaucoup que le petit nom de ces gens-là vont rester, seront toujours devant votre yeux et votre mémoire, parce que ça, c'est un de ces buts de mon livre, oui.
Merci beaucoup, Benny Mer et Gilles Rosier, d'avoir évoqué avec nous votre actualité. Donc, c'est la parution aux éditions de l'Antilope de Smoche, biographie d'une rue juive de Varsovie. Vraiment un ouvrage, à chaque fois je le dis, hein, mais tous les ouvrages des éditions de l'Antilope sont remarquables. Et là, encore une fois, voilà, il apporte une autre coloration historique avec une écriture romanesque. Et c'est ça qui fait qu'il est accessible à tous. Donc, merci et à bientôt.
Merci, Sandrine.
Merci beaucoup.